10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
J'étais en train de me faire un souci, mais vous pouvez pas savoir, j'étais en train de regarder par la fenêtre, je disais, mais il est où l'imam? Parce que j'ai un avocat, mais pour faire l'islam au présent, c'est un peu... C'est pas pareil.
Ça n'a rien à voir.
Les fatwas de Maître Serran ne sont pas les mêmes. Quoiqu'une fatwa, c'est un avis religieux, mais ça peut être aussi un avis juridique, Imam Abdelali.
Un avis juridique,
non,
je...
Un avis juridique religieux.
Je ne peux me prononcer qu'en présence de notre grand maître.
Non, mais une fatwa, c'est pas aussi un avis juridique religieux.
Juridique religieux, oui.
Ouais.
Puisqu'il existe un droit musulman comme il existe un droit positif.
Bah, le fiqh.
Le fiqh, effectivement, voilà, le fiqh qui
est la science de...
qui est la compréhension profonde.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce sont des avis juridiques d'une certaine
façon. Tout à fait, ouais. Parce qu'elles sont fondées sur un certain nombre d'outils qui permettent de statuer.
Oui.
De statuer et donc d'apporter des normes. Des statuts normatifs.
Il y a une méthodologie.
C'est ce qu'on appelle ahkam al-fiqhiyya, oui.
Voilà. Alors, voilà. Vous avez couru?
Oui,
un peu échoufflé.
Il y a de la voiture en montant les escaliers parce que bon.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, pour rentrer ici, c'est un parcours du combattant. Quand il y a personne qui vient m'accueillir en bas.
Ah, vous avez besoin qu'on vienne vous accueillir.
Oui, normalement il y a le tapis rouge et tout ça.
Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous êtes rentré.
Comment je suis rentré?
Oui.
Ah bah j'ai commis une infraction.
Non, c'est bien ce que je pensais.
Bon, j'ai commis une infraction.
Vous voulez qu'on parle?
Non mais là la police sait pas, je vais en prison. Ne dites rien, hein, c'est entre nous.
Non, on a un bon avocat là. Vous allez voir le match avec Maître Serran à la chicha,
Fab? À la chicha, ouais. C'est laquelle chicha?
Côté de la mosquée de
J'espère Paris. J'espère c'est avec la à la pomme ou bien à la Nice? Tout.
Ce dont.
D'accord.
Ce dont tu as envie.
Ce que j'ai envie. Il y a quoi comme parfum?
Oh, il y a plein de parfums.
Eh, c'est haram tout ça là.
Non, mais chicha. J'arrête pas de lui dire.
Chicha, c'est haram.
J'arrête pas de lui dire.
Non, mais ça, par contre, c'est un avis juridique.
Ouais, il me dit l'imam, il a dit oui. Non, il a jamais dit oui, l'imam.
La chicha, ça fait du bien. Hein? Sachez-le.
Pour tous la chicha, c'est un poison. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les médecins de la terre. C'est pas seulement de la France et de Navarre. Les médecins de la terre, ils te disent que la chicha, elle est voire même plus dangereuse que la cigarette.
Donc, en même temps, ça serait si les médecins avaient certaines compétences en la matière.
Il faut dissuader les gens à fumer de la chicha.
Bon, en tout cas, je serai à la chicha du Fahd pour regarder le match du Maroc.
Mais voilà. N'allez pas le rejoindre.
Et n'hésitez pas à venir, comme ça, on fera la victoire du Maroc tous ensemble.
Ceux qui deviendront n'auront pas la...
Non, mais après tu peux aller à la chicha sans fumer, Imam Abdelali.
Hein?
On peut aller à la chicha sans fumer.
On peut aller à la chicha sans fumer. Mais si on fume passivement, parce qu'on est entouré de gens qui fument.
Vrai. Ça, c'est vrai. Là, vous avez raison. Là-dessus, c'est.
Ouais, c'est tout à fait vrai.
Fumer passivement, c'est aussi mauvais que.
Mais là, c'est pas pareil, on est à côté de la mosquée de Paris. Donc, on bénéficie de l'aura de la mosquée de Paris.
Ah, si, c'est à côté de la mosquée de Paris.
Voilà.
Là, je peux que m'incliner.
C'est haram à moitié.
C'est haram à moitié.
Haram. Mais c'est quand même haram.
C'est presque haram. On est borderline dans le
borderline.
Haram.
Là, on fait du halalf. Hein. Oh là là.
Vous savez, dans l'école hanafite, il existe une catégorie de statut normatif qu'on appelle al-makruh karaha tahrimiyya. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fortement déconseillé à un degré d'interdiction. Un exemple, par exemple, jeûner le jour de la fête de l'Aïd. Normalement, jeûner, c'est un acte d'adoration. Mais jeûner parce que c'est le jour de l'Aïd et que c'est formellement interdit, les hanafites ont dit, on ne peut pas dire que c'est interdit de jeûner parce que jeûner en soi-même, intrinsèquement, c'est un acte d'adoration. Donc, il ne peut pas être en soi interdit, mais il peut être fortement déconseillé à un degré d'interdiction, c'est-à-dire makruh karaha tahrimi en arabe. Mais on ne peut pas l'appeler parce qu'il n'est pas par lui-même interdit. C'est le moment de le faire qui le rend interdit. Donc c'est pour ça qu'on n'utilisera pas le mot haram, mais on dira makruh karaha tahrimiyya. Makruh, ça veut dire détestable. Voilà. C'est le statut normatif.
C'est intéressant parce que en fait, y a peut-être des gens qui nous écoutent qui découvrent que le statut de la chicha, que c'est haram.
Ouais, par lui-même, là, par contre.
Voilà.
C'est le match de foot Maroc-Portugal.
Voilà, mais c'est le fait de fumer une chicha. Et on l'a vu aussi pour les paris en ligne. Vous savez, les paris en ligne pour les jeux, et notamment à l'occasion
Tous les paris, qu'ils soient en ligne ou à autre, c'est haram. Ça s'appelle du qimar. En arabe, dans le Coran, il utilisait le terme meysir.
Il y a beaucoup de gens, je peux vous assurer, parce qu'on a
qui pensent que c'est pas interdit.
On a fait une émission cette semaine sur les paris en ligne, et beaucoup de gens ne savaient pas que ce n'était pas autorisé.
Ouais, c'est clair, il fallait m'appeler. Moi, je vous aurais donné clairement la position qui est consensuelle. C'est-à-dire, il n'y a même pas un doute. Il n'y a même pas un avis.
Ouais, que parier sur un match.
Parier de l'argent pour obtenir une somme supérieure à ce que l'on a parié. Dès que déjà en soi, le fait de miser, ça c'est une mise. T'es en train de miser sur l'issue d'une course, d'un match, d'une carte qui est cachée, qui va apparaître et qui va te donner soit le blackjack ou bien le carré d'as en poker, etc.
Non, je ne parle pas de ça. Je vous parle de parier sur un match. Si vous êtes un spécialiste de football, Imam Abdelali, que vous êtes expert, que vous connaissez tous les scores des équipes, tous les résultats.
Qui imaginait hier que le Brésil, ils allaient perdre devant la Croatie? Philippe. Personne ne pouvait. Donc arrêtez de ne parler personne n'est expert. Sur un terrain, on sait bien qu'il y a ce qu'on appelle une partie d'hasard. Le gars, il a tiré un ballon, son pied, parfois il y a de la technique, mais des fois, il y a beaucoup, c'est du hasard. Combien de fois tu vas avoir des tirs au but qui vont jamais entrer dans les filets et une autre équipe qui va tirer qu'une seule fois et ça va suffire pour la qualifier.
Donc ces paris en ligne sont des jeux
tout
de
ça,
hasard.
Voilà, c'est du hasard. C'est, ça c'est du hasard. Voilà. On est dans le péché. Imagine pareil pour le tiercé. Le cheval il marche sur un caillou alors que c'est le meilleur coursier, c'est le meilleur cheval de course, mais parce qu'il a à un moment donné marché sur un caillou qui est venu se positionné dans ses sabots, un endroit qui lui fait mal, eh ben voilà, il va perdre de la vitesse et il va perdre. Et finalement, je vais perdre ma mise. Voilà, donc on est dans le hasard à tout moment. Tous ces jeux de hasard, que ce soit sur les matchs de foot, de boxe, de tiercé, de jeux de cartes, de loto, de boules qui tournent dans une boîte et qui fait sortir des numéros, etc.
Des lapins.
Des numéros. Des boîtes, non, il y a des boîtes, tu sais, la roue là, la roue qui tourne là, etc. Tout ça, c'est des jeux de hasard qu'on appelle en arabe al-maysir. Et Dieu dans le Coran dit, le diable, al-shaytan, innama yuridu al-shaytan, le diable souhaite semer la zizanie et la discorde entre vous à travers l'alcool et les jeux de hasard. Innama yuridu al-shaytan, yuqa'a baynakum al-adawata wal-baghda'a fil-khamri wal-maysir. Hein, l'alcool et les jeux de hasard, et ensuite dire à Dieu une phrase, mais d'une puissance extraordinaire. Ceux qui entendent ce verset-là, comment peuvent-ils encore s'autoriser à faire cela, puisqu'il dira à la suite de ce verset, allez-vous cesser, hein, fahal antum muntahoun, le verset en arabe c'est fahal antum muntahoun, allez-vous cesser. Et là, c'est Ibn Omar al-Khattab qui a entendu ce verset où Dieu dit "Fahal antum muntahoun, allez-vous cesser ?" Il a levé les mains au ciel, il a dit "Intahayna ya Rabb. Oh mon Dieu, nous avons cessé." Et il a jeté, même parce qu'il buvait d'alcool, Omar al-Khattab. Le calife Omar était un buveur d'alcool avant l'islam. Et il a cessé, il a jeté toutes les bouteilles par terre, il les a cassées les bouteilles par terre et il a dit "Nous avons cessé, nous repentons ya Allah, ya Rabbi."
Donc nous pas de Paris, Maître Serran, sur
Maroc-Portugal.
Même
les panachés, tout ça.
Là, c'est fini. Pas
de panachés même. Je voulais parier sur le Maroc. Je voulais fumer une chicha. Et en cas de victoire du Maroc, un peu de Johnny Walker. Donc ça, c'est un joueur. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Johnny Walker, c'est autorisé.
Ah, c'est autorisé. Écouter de la musique.
D'accord.
Non, c'est
non. C'est quoi Johnny Walker? C'est un musicien, non?
C'est un grand musicien. On peut écouter de la musique.
Alors, si tu parles de musique, franchement, je sais pas c'est qui Johnny Walker. Je te dis ça, mais.
Ouais, je vous laisse, parce que sinon je vais arriver en retard.
C'est quoi Johnny Walker?
Explique-tu qui est Johnny Walker.
Johnny Walker, c'est du whisky.
Ah, c'est une marque d'alcool.
C'est du whisky.
Ah, d'accord, non.
Il y a plus de whisky.
En tout cas, écoutez la musique, ça n'est pas interdit avec modération. Comme pour toute chose.
D'accord. Et là, bon, Maître Serran, bisous. Vous
embrasse. Moi, je connaissais le JB, moi, en alcool. Fort.
On sait pas mieux.
Le whisky.
En JB?
Ouais, c'est pas ça, JB, il dit
ça. Non, ben non, c'est JW, non, Walker.
Ah, c'est ça, JW, d'accord.
Non,
okay.
Bien, on va pas parler de ça du tout. Cette question de Paris, c'était important que vous reveniez dessus, puisqu'on a été très surpris du nombre de personnes qui ne savaient pas que ce n'était pas autorisé.
J'aurais dû me le demander dans la semaine, m'envoyer un message. Toi, au lieu de
Ali Habibi était là et
fallait. Non, mais pour qu'on en parle aujourd'hui, pour que je consacre une émission à cela, j'aurais pu en parler aujourd'hui et détailler.
On en a parlé.
Tous les arguments qui concernent cette pratique-là et même les histoires qui sont associées à cela. En tout cas, l'alcool, les quatre, il y a quatre pratiques qui sont citées dans le Coran dans un même verset où Dieu dit innamal khamru, certes l'alcool, ou el maysiru, maysir c'est le qimar, c'est-à-dire les jeux de hasard, ou el ansab, c'est-à-dire les menhirs, tu sais, c'est les statuettes, ou les plutôt le ansab, c'est les objets que l'on va positionner autour d'une maison, une sorte de, comment on dit, des alouettes, des amulettes, les amulettes,
oui,
ou les trucs qu'on
les
va
amulettes,
mettre,
oui.
Les choses qui ont pour objet soi-disant de protéger, ouais. Soit du mauvais œil, ou soit des entités démoniaques,
pas
ou
les, pas les nains de jardin.
Si, on inclut.
C'est vrai?
Ah oui.
Ah ouais?
Ah oui, 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 tout à fait. Les nains de jardin, ça rentre dedans. Puisqu'il s'agit de statuettes d'êtres humains. Hein, on voit bien un être humain, quand on regarde un nain de jardin, ah c'est ouais. Un être humain. C'est strictement interdit de mettre des nains de jardin dans, selon les préceptes de l'islam. Les statuettes que l'on met dehors, les fers à cheval, toutes ces superstitions qui ont pour objet de soi-disant protéger le bien immobilier, c'est-à-dire la demeure, etc., sont considérées comme des actes d'idolâtrie.
Car c'est une forme d'idolâtrie. Le 1er janvier, s'embrasser sous le gui, hein, pour que ça porte bonheur, c'est...
Ça, c'est de la superstition et c'est un péché. Voire même fêter le nouvel an, ce qui est la Saint-Sylvestre. Je rappelle que Saint-Sylvestre est le pape de Rome qui a dirigé l'église catholique au 4e siècle, au début du 4e siècle de l'ère chrétienne. Et c'est lui qui a organisé ce grand concile de Nicée avec l'empereur Constantin Ier et qui a fait du christianisme la religion d'État de l'Empire byzantin. Et l'Empire byzantin a, pour cela, adopté la Trinité, c'est-à-dire la foi en un Dieu trinitaire, c'est-à-dire du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est à partir de cette date-là que le christianisme, pour nous musulmans, a dévié de la foi authentique, de l'unicité authentique, de l'unicité pure, du monothéisme pur, puisque au lieu d'adorer que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas notre Père mais notre Créateur, eh bien nous adorons chez les chrétiens un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Même s'ils disent que ces trois ne font qu'un, eh bien je suis désolé, quand vous vous adressez à Jésus, à Marie, à un saint, et que vous l'implorez, que vous lui demandez quelque chose, pour nous c'est considéré comme une forme d'adoration. L'adoration n'est pas simplement de croire en un Dieu, mais de n'adorer qu'un Dieu. Et dans l'adoration, il y a la prière, l'imploration. L'invocation, quand tu invoques, tu dois invoquer le seul Dieu. Si tu invoques Jésus, Marie, Joseph, le saint tel, saint Bernard, saint je sais pas quoi, le patron des pêcheurs, le patron des forgerons, le patron des bûcherons, je sais pas quoi, tout ça c'est du polythéisme. Hier, j'étais avec des imams dans lequel on avait visionné un monsieur qui parlait à Médine et qui faisait des invocations. En regardant avec la vidéo qui montrait la tombe du prophète, et il disait au prophète, sors-nous de notre situation calamiteuse dans laquelle nous sommes. Et il disait ya kashif al kurub, c'est-à-dire ô toi qui nous sors de cet état de calamité dans lequel nous sommes, libère-nous de cela. Et il disait arithna ya rasulallah, c'est-à-dire sauve-nous ô prophète. Là, c'est du polythéisme. On n'a pas le droit de s'adresser au prophète pour l'implorer ou pour l'invoquer. La seule chose qu'on a le droit, c'est invoquer Dieu et implorer Dieu qu'il nous accorde l'intercession du prophète le jour de la résurrection. C'est-à-dire le jour de la résurrection, le prophète pourra intervenir et intercéder. De toute façon, c'est déjà un fait. On n'a pas besoin de le demander, puisque c'est un fait. Il intercédera envers tous les membres de sa communauté. Toute personne qui aura dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » obtiendra l'intercession. Donc, inutile de demander cela. C'est déjà un fait accompli. C'était un acquis, je veux dire. Pas accompli, mais acquis. Qui s'accomplira le jour de la résurrection. Donc, on essaye de faire le plus partie et le mieux partie de la communauté du prophète en suivant les pas et les traces et le modèle de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de cette manière-là qu'on obtiendra mieux l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas de demander à Mohammed, ya Mohammed, sauve-nous, arithna, donne-nous secours, puisque le mot arithna, ça vient du mot iratha, qui veut dire secours. Voilà.
Alors, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun. Il y a encore des gens qui se demandent si on est en direct, mais on est en vrai direct et le standard est à votre disposition puisque cette émission est la vôtre. Vous composez simplement le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle d'islam tous les samedis en direct de 10h à 11h sur Beurre FM. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000. On parle de la dette ce matin, imam Abdelali. Quels sont les mérites de prêter de l'argent et de faire preuve d'indulgence quant aux créances de remboursement convenues?
Eh ben écoute, c'est un acte de sadaqa, donc c'est un acte pieux. Il faut pas imaginer que si on prête de l'argent, on n'est pas dans une démarche d'une sadaqa. Là, ça, il y a énormément de mérite à prêter de l'argent. Dieu dans le Coran dit clairement, à celui qui est dans la gêne, accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, en parlant de l'endetté. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette, c'est-à-dire de faire preuve de largesse hein, auprès de celui à qui vous doit de l'argent par charité hein, par preuve de sadaqa. Il dit wa anta saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun, hein, cela serait meilleur pour vous si vous le savez. Il y a un hadith rapporté par Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui soulage un prochain d'une dette ou bien d'une on va dire d'une difficulté dans ce bas monde, Dieu le soulagera de ses fautes, de son fardeau de péché qu'il aura commis le jour de la résurrection. Et celui qui soulage et qui facilite une chose à quelqu'un qui est dans la difficulté, Dieu lui facilitera ce qu'il a de difficulté dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui dissimule une faute de son prochain, Dieu dissimulera ses fautes le jour, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Dieu est en aide avec son serviteur tant que celui-ci l'est avec son prochain. Encore un hadith rapporté par Muslim selon Abi Qatada radiyallahu anhu, que Dieu l'agré, a dit que le prophète a dit man sarrahu an yunjiyahu Allah min karbi yawm al-qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada an. Celui qui souhaite que Dieu le soulage d'une difficulté ou d'un fardeau le jour de la résurrection, eh bien qu'il soulage son prochain dans ce bas monde, ou qui carrément lui pardonne et le voilà. Quand vous avez par exemple une dette, vous savez que celui qui vous doit de l'argent ne sera jamais en mesure de vous le rembourser. Au lieu de vous d'ajouter à votre liste d'amis ou de retirer de la liste de vos amis une personne qui vous doit de l'argent et de le détester pour rien, parce que finalement vous n'aurez pas récupéré votre argent, mais en plus vous allez perdre un ami. Donc vous lui dites je te pardonne, comme ça au moins vous gardez votre ami, l'argent tant pis, il est parti, mais au moins vous gardez un ami, et en plus vous avez la récompense de cette perte d'argent le jour de la résurrection. Dieu vous l'accordera, et même il vous le remboursera dans ce bas monde avant, tôt ou tard. À un moment donné, vous allez retrouver votre récompense dans ce bas monde. Dieu va vous soulager et il y a une aide qui va vous venir de manière imprévisible. Donc, c'est très important de soulager les personnes qui sont endettées et à qui vous avez prêté de l'argent. Il dit dans un hadith authentique, « Lahu bi kulli yawmin sadaqa » qu'à chaque jour que tu soulages ton frère de la dette qu'il a, que tu lui donnes du délai en plus, eh bien, ça sera l'équivalent de ce que tu lui as donné en sadaqa. C'est-à-dire que Dieu va te récompenser de la somme que tu as donnée en sadaqa dans ta balance de hasanat. Voilà, et donc, il y a un hadith qui dit, qui est là, j'aime bien celui-là, il est authentique, rapporté par Ahmed, qui dit que celui qui prête une première fois et qui ensuite prête une seconde fois une somme d'argent, c'est comme si qu'il leur a donné. C'est-à-dire prêter deux fois, c'est équivalent à la donner une fois. Tu vois, prêter pour être remboursé, bien sûr. Tu prêtes et t'es remboursé. Après, tu reprêtes et t'es remboursé. Eh bien, le fait d'avoir prêté deux fois, c'est comme si tu l'avais donné une fois pleinement et qu'elle a été consommée par l'emprunteur. Et il y a énormément de hadiths hein, concernant cette question. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda anhu. Que le croyant reste malgré tout redevable. Et ça, c'est important et c'est grave. C'est un des dangers justement d'emprunter de l'argent. Il faut éviter d'emprunter de l'argent. Hein. Le prophète a demandé à Dieu d'être, de le préserver de la dette et de la lourdeur de la dette. Wa min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal. Allahumma inna na'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Ô mon Dieu, préserve-nous des soucis, de la tristesse. Wa min al-'ajzi wal-kasal, de l'handicap et de la paresse. Wa min al-jubni wal-bukhl, de la lâcheté et de la l'égoïsme, de l'avarice et de la lourdeur. Et de la l'envahissement wa ghalabati ad-dayn, l'envahissement de la dette wa qahr ar-rijal, ainsi que la malveillance, la malfaisance des gens, des prêteurs qui sont souvent des bookmakers, c'est ça? Non, comment on appelle ça, les gens qui prêtent, ils prêtent des sommes justement juste pour se pouvoir avoir la main mise sur la personne, pour pouvoir avoir une emprise sur lui. Souvent, il y a des gens comme ça et qui, bien entendu, réclament des intérêts faramineux.
C'est plutôt des usuriers, mais bon.
Voilà, des usuriers, voilà. Ouais. Bookmaker, c'est lié au jeu.
Les jeux de hasard. C'est plutôt sur les paris.
Sur les paris, d'accord. Enfin, tout ça, c'est haram. Tout ça, c'est haram. Bon, ça, c'est les malheurs de l'humanité, ça.
Allez, on a Farid qui est avec nous au 01 53 48 3000. Farid, vous êtes bienvenu.
Oui. Allô?
Salam. Oui, Farid. Bienvenue.
Oui, alors oui, moi je suis un musulman, je peux pas faire le ramadan. Et oui. Quand on me dit qu'il faut de l'argent, ma tutrice, elle m'a dit, non, vous n'avez pas les moyens, alors que moi je suis prêt à donner pour les pauvres.
Vous êtes
5 euros par jour. Et je fais pas le ramadan parce que je suis diabétique, j'ai problème de santé.
D'accord. Alors juste une chose, est-ce que toi, tu as la main sur ton argent? La réponse est non, puisque tu es sous tutelle, c'est ça?
Ouais, voilà.
Donc tu n'es pas concerné ni par le jeûne, ni par le paiement de la fidia, d'accord?
Ni par la réparation.
Oui, c'est ce qu'on appelle la fidia. Voilà. La fidia, c'est la réparation. Donc, Akhil Karim, sois rassuré, auprès d'Allah Azzawajal, tu n'as rien à payer, ni jeûner. Tu ne jeûnes pas et essaye de faire des choses bien, ce que tu peux faire. Si par exemple dans ton voisinage tu peux aider ton prochain, tu le fais. Toi, tu multiplies des bonnes actions autres que le jeûne et la réparation financière, c'est-à-dire la fidia.
Merci Farid. Kéra est avec nous au 01 53 48 3000. Kéra, bienvenue.
Allô, bonjour.
Oui, salam alaykoum.
Voilà, salam Ahmed Imam. انا بغي نسقسيك واحد السؤال. اسمح لي. انا كنت في الجزائر وواحد كيقول لها يا ربي سوسيتي دايره باللي يسموها وفعال الخير. ابقى مشيت لهذه بلاصه سيتي وعطيت دراهم كبار، راني نقول دراهم كبار باش يديروا حاسيل ولدي. الوغ قعدت شهرين تما ما عندي حتى جيت ما اني جيت وما ما كانش ما شفت لا حاسيل والو. كيفاش
ما شفتي حافي؟ شنو حافي؟
حاسي هو بير.
حاسي ماشي حافي.
احنا بالعباس نقولوا حاسي.
الحاسي، نعرف الحاسي بيان سور.
بير. قال بير من بير.
لما نعطيتي درام، أكي فوز أفي دوني سيت أرجون بور كوزان؟
المسؤولين.
شكون المسؤولين هادو؟ كي سي مسؤولين؟
لا مسؤولين باينين في الجزائر، ماشي باينين.
خلاص داكور، سي كوا لا كيستيون دونك؟ كيسكو.
الوغ كيستيون هادي كيفاش حتى داروك شهرين ما بالي والو.
أنا دوكا دي جو غاردي دون لا بول دو كريستال إي جو فوار كو اسكي لي بارتي لارجون، سي سا؟
لا تاع يعني تقول لي وشنو هذاك مام كيما داروا لي والو تسمى صدقة على وليدي؟
بيان سور، إلا هما ما قاموش بالواجب، أنت تكتب لك الأجر تاع البير. Vous aurez la récompense d'un puits qui a été creusé. Et eux, s'ils ont détourné l'argent, ils l'ont volé. Eh bien, c'est le péché à la dahram. Mais vous aussi, vous devez faire attention que quand vous donnez de l'argent, vous allez vérifier.
Oui, mais enfin bon, on ne peut pas toujours savoir que les gens sont
malhonnêtes. Non, on n'envoie pas de l'argent à distance. Des gens ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font et comment ils travaillent. On doit aller se renseigner. Si on ne peut pas le faire soi-même, on délègue quelqu'un. On n'en donne pas l'argent comme ça. On vérifie, on demande à la personne des preuves, des photos. Montrez-moi la photo du puits, etc. Voilà.
Voilà, Kéra, merci. Lamia est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue, Lamia.
Oui, bonjour Christophe. Salam alaikum, imam.
Wa alaikum salam.
Alors moi, j'appelle pour avoir une réponse en ce qui concerne une question qui n'a rien à voir avec... Ça résonne, excusez-moi, je ne suis pas en haut-parleur, rien du tout, mais ça résonne quand même.
Attendez,
ne vous inquiétez pas, on vous entend bien.
On est en train de faire un réglage, là. Allez-y.
D'accord. Merci. Donc, je posais une question qui n'a rien à voir avec la dette et l'argent. C'était pour savoir si une femme aujourd'hui, alors elle peut faire une umrah, excusez-moi, ou un hajj sans son mahram?
Alors, oui, la réponse est oui, puisque la problématique qui a été posée par, qui a été soulevée du moins par les savants concernant l'accomplissement du pèlerinage, c'est que on craignait pour les femmes qui, en sortant de l'agglomération où elles habitaient, se retrouvaient dans des zones de non-droit, c'est-à-dire dans des endroits où il y a des brigands, des qu'on appelle ça, les brigands de chemin, là, vous savez comment on dit,
des bandits de grand chemin,
des bandits de grand chemin, etc. qui s'attaquaient aux caravanes où il y avait des femmes qui étaient seules, par exemple, et qui pouvaient leur vie était en péril ou leur dignité était en péril. Et donc, pour les protéger, on interdisait qu'elles partent seules. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... là, aujourd'hui, quand vous vous déplacez, vous passez d'un district de gendarmerie à un autre. Vous passez d'un service de police à un autre. Vous rentrez dans une agglomération à une autre. Vous rentrez dans un service de pompiers, d'assistance, de SAMU, d'assistance, de direction départementale de la santé. Donc quand vous déplacez en France, ou même quand vous partez à l'étranger ou que vous allez en Arabie Saoudite, dans l'avion, à l'arrivée là-bas, vous êtes constamment protégé. On assure tous vos besoins, que ça soit sécurité, que ça soit santé, que ça soit votre dignité, personne ne peut rien vous faire de mal. Donc cette règle qui consistait à protéger les femmes en les interdisant de voyager n'a plus aucun sens. Il n'a plus de raison d'être, puisque la raison pourquoi elle est interdite elle-même a disparu. Donc si la raison disparaît, le statut normatif disparaît avec. C'est comme ça que les savants réfléchissent. C'est d'accord, pas des bêtes, même... on aura dit voilà, les femmes ils doivent pas voyager sans mahram, donc la femme elle voyage pas. Non, expliquez-moi pourquoi elle voyage pas seule. Voilà pourquoi. Maintenant si le pourquoi n'existe plus, eh bien elle a le droit de voyager, voilà, c'est simple.
Donc même si aujourd'hui on n'applique pas la sunna du prophète alayhi salat wa salam, parce que ça a été un hadith qui a été authentiquement dit par le prophète, hein.
Le prophète a dit qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu et au jour de la résurrection de voyager plus de 3 jours, la distance, l'équivalent de distance de 3 jours, sans qu'elle soit accompagnée d'un mahram. Sans qu'elle soit accompagnée d'un protecteur. Puisque à l'époque, je rappelle, c'est les gros bras et les épées et les armes blanches qui protégeaient la gente féminine. Puisque les femmes avaient une corpulence musculaire inférieure à celui des hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures aux hommes, attention. Je dis qu'elles ont globalement une musculature. À l'époque, c'était les bras, c'était celui qui était capable de défendre... c'est sa famille, sa femme et ses enfants, avec ses bras, sa force, qui était capable de protéger contre les brigands. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Celui qui garantit l'ordre et la sécurité des citoyens qui se déplacent sur le territoire et même à l'échelle internationale, ce sont les autorités compétentes. Il y a la police, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU, etc., etc. C'est fini tout
donc,
ça.
Si effectivement le hadith n'est pas appliqué selon la sunna, inshallah ta'ala, la umrah elle est acceptée par Allah.
Alors oui. Ne dites pas selon la sunna, qu'est-ce que ça veut dire selon la sunna? La sunna c'est la sunna, non, ça veut pas dire ça la sunna. Là vous êtes en train de mélanger le hadith, c'est-à-dire le fait qu'elle soit révélée par le prophète qu'on appelle la source qui est la sunna et le statut normatif qu'on appelle la sunna, c'est deux choses différentes. Une elle sunna c'est-à-dire un acte surérogatoire. C'est ça ce qu'on appelle une sunna.
D'accord.
Point de vue normatif. D'un point de vue, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Par exemple, faire deux rak'at avant dhor, c'est sunna. Mais ça veut dire c'est pas obligatoire. D'accord. Le prophète, il l'a fait, mais il l'a fait en disant c'est pas obligatoire de le faire. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas assujetti à une sanction. Alors que l'obligatoire, si vous ne le faites pas, vous faites l'objet d'une sanction pour l'avoir délaissé. Est-ce que vous avez compris la différence?
D'accord. L'obligation de faire pour une femme ou un homme le hajj ou la umrah, aujourd'hui, elle est praticable du fait que l'époque a complètement changé et pour le coup, le hadith n'est pas forcément...
Voilà. Alors, si on se retrouve dans la même situation qu'à l'époque du prophète, par exemple, vous allez en Afghanistan aujourd'hui ou dans certains pays où quand vous sortez encore de l'agglomération, vous êtes encore une fois en danger, eh bien, le hadith s'applique. Si les conditions sociales se retrouvent comme celles de l'époque du prophète, à ce moment-là, la norme, le statut normatif redevient applicable. Est-ce que vous
D'accord,
comprenez?
Très bien, c'est clair. Oui,
l'important, c'est de protéger les citoyens et les citoyennes.
D'accord,
si un homme ou une femme clair. Qui se déplace, eh bien, est en danger, eh bien, elle ne peut pas, même dehors, là, même dans l'espace urbain. Vous sortez dehors, une femme qui sort en bas de chez elle, il y a des voyous, elle sait que si elle sort dehors, ils vont tout de suite l'attaquer. Eh bien, là, le statut, c'est pas de voyager, c'est même sortir, elle n'a pas le droit. Du moins, elle aura le droit en appelant la police ou en appelant son frère ou quelqu'un de sa famille pour la protéger pour qu'elle ne subisse pas de tort. C'est-à-dire que l'important, ce que je voulais vous dire, c'est que l'islam est là pour protéger. Les interdictions ne sont pas là juste pour contraindre, pour emprisonner les gens. Il y a une logique de protection. Si cette logique n'est plus applicable, eh bien, le statut normatif, lui aussi, disparaît avec. Comprenez ?
D'accord, c'est clair. Parce que j'ai une amie, effectivement, qui est concernée. Et on était dans la divergence. Elle aimerait bien faire une omra, inshallah. Mais elle me maintient que...
À partir du moment où elle le fait dans un cadre où il y a des femmes, d'un groupe de femmes qui sont encadrées par un imam... qui est considéré de bonne mœurs et qui assure leur protection et leur encadrement tout au long du voyage, tout au long du parcours, eh bien, il n'y a aucune difficulté. Moi-même, je le fais. J'organise là le 20 décembre. Il y a des femmes sans mahram qui partent avec moi. Le 20 février, je pars encore une fois. Le 25 octobre dernier, je suis parti avec beaucoup de femmes qui n'avaient pas de mahram. Et tout ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé.
Voilà, et c'est vrai que c'est une question sur laquelle nous reviendrons. Merci Lamia. D'autres appels, d'autres questions dans un instant. 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, tous les samedis, hein, entre 10h et 11h, l'islam au présent sur Beurre FM, 01 53 48 3000. Vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun et c'est Salma qui est avec nous. Salma, bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Philippe, bonjour Monsieur Abdelali Mamoun et toute l'équipe et tous les auditeurs.
Merci.
Merci beaucoup Salma.
J'ai trois questions. Je vais répéter ma question que j'ai posée il y a peut-être une vingtaine de jours. C'était la dernière question dans l'émission, donc c'était pas vraiment clair pour moi. J'ai posé une question sur l'héritage, la femme et l'héritage en islam. Monsieur Abdelali Mamoun a donné beaucoup de détails, je m'y suis perdue. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que l'islam a donné les droits tous les droits de la femme en question d'héritage ou bien la femme est lésée en question d'héritage? C'est tout ce que je voudrais savoir.
Alors madame, c'est une grosse question, hein. Il faudrait une émission entière pour parler de cette question. C'est, est-ce que les femmes sont lésées par rapport à l'héritage, le partage d'héritage? Essentiellement, elles touchent l'équivalent des hommes, sauf quand on parle des enfants des héritiers. C'est vrai que c'est souvent eux qui sont la plupart du temps héritiers. Mais bien entendu, il faut rappeler que les règles du Coran, les règles de l'islam, soit on les prend en intégralité, soit on les rejette en intégralité. On ne prend pas du Coran ce qui nous arrange.
Oui,
et on délaisse ce qui ne nous arrange pas. Par exemple, ce qui est imposé en islam, c'est que c'est les hommes qui doivent payer, qui ont un devoir des besoins matériels des femmes. C'est-à-dire que financièrement, les femmes n'ont rien à payer normalement. C'est aux hommes de payer les factures, les charges, les commissions, les besoins matériels des femmes. C'est aux hommes de payer. Donc, puisque c'est les hommes qui doivent payer l'intégralité des besoins des femmes... Par exemple, le mari doit payer vis-à-vis de sa femme, les parents doivent payer pour la fille, le frère doit payer pour sa sœur, si elle a personne qui la prend en charge. Donc ce sont toujours les hommes qui doivent payer pour les femmes. Donc si c'est les hommes qui payent tout pour les femmes, on pourrait dire que les hommes devraient prendre tout l'héritage. Eh bien non, le Coran a accordé au moins la moitié quand même aux femmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous prenez la moitié, mais cette moitié-là, c'est de l'argent de poche. C'est-à-dire vraiment pour vous faire plaisir. Eux, ils prennent le double, mais pour assumer vos besoins, pour vous payer finalement après derrière ce dont vous avez besoin. Effectivement.
Oui, vous avez expliqué tout ça quand je vous ai posé la question.
D'accord.
Sauf que moi, je vous dis la vérité, je voudrais que ça soit. Je comprends quand c'est plus.
Attendez, madame. Il y a autre chose. Là, maintenant, nous sommes en France. En France, qu'est-ce que dit la loi ? La loi, elle dit non, nous, on va aller voir les choses autrement. Nous allons accorder les mêmes devoirs matériel aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que dans un couple, c'est monsieur et madame qui payent les charges. C'est pas que monsieur. Et en contrepartie, au niveau de l'héritage, l'homme et la femme toucheront les mêmes parts. Là, c'est logique, c'est juste. Puisque les charges sont les mêmes, donc les droits sont les mêmes. Mais quand les charges ne sont pas les mêmes, on ne peut pas mettre les mêmes devoirs, les mêmes droits. On ne peut pas dire, ben non, oui, mais nous, on veut quand même toucher les mêmes parts. Ah oui, mais après, derrière, est-ce que vous acceptez d'assumer les mêmes charges que les hommes? Ah bah oui, donc ça veut dire qu'on applique la loi française. On n'applique plus la loi musulmane.
Non, moi je pose la question concernant juste les musulmans. C'est pas dans le pays occidental, c'est dans un pays musulman.
Bah dans un pays musulman, c'est ce qui s'applique. Voilà. C'est ce qu'ils appliquent. Normalement, les hommes, moi ce que je sais, c'est que par exemple en Algérie, رجال هما اللي تكلفوا بعيالاتهم. Ce sont les hommes qui vont bosser, qui sortent et qui ramènent à manger, qui payent les factures et qui assument les besoins. Dans un couple normal, dans une famille normale, c'est le père qui assume. Et en contrepartie, s'il y a un héritage, eh ben, il touchera le double. Mais la femme, elle va profiter de l'héritage de son mari, qu'il a touché de ses parents. Et son frère à elle, qui va toucher le double, eh bien, sa femme à lui, la femme de son frère à cette femme-là, eh ben, elle va profiter de l'héritage de son mari. Finalement, on s'y retrouve parce que la femme profitera de l'héritage de son mari. Ou de son frère, par exemple, si elle est restée célibataire. On a un scénario, par exemple. Je vais vous donner un scénario un peu spécial. Ou qui n'est pas spécial, hein, qui est très courant. Hein. Vous avez une des filles de la famille qui est sacrifiée pour s'occuper des parents qui ont atteint un âge avancé.
Vous m'avez parlé de ça, la papa, ouais. Vous avez expliqué ça. Vous, en tant qu'imam, monsieur Abdelali, qu'est-ce que vous en pensez comment l'islam a géré l'héritage? Est-ce qu'il a été juste avec la femme? Je vous pose une question à vous, s'il vous plaît, en tant qu'homme de religion.
Mais madame, je viens de vous répondre à votre question, là. Je viens de vous dire que si l'islam impose aux hommes l'intégralité des charges, eh bien, je trouve normal qu'il y ait cette inégalité dans le partage de l'héritage. Puisque c'est à l'homme, là, il y a une inégalité. L'homme assume seul. C'est pas à la femme de payer un centime des charges. Ni les factures, ni l'électricité, ni le loyer, ni l'eau, ni rien. C'est l'homme qui paye tout. Donc, à partir de là, vous allez lui donner le même, est-ce que vous trouvez normal de donner le même héritage? C'est comme dans les impôts, madame. Vous allez pas me dire que, au nom du fait que la France est basée sur le triptyque liberté, égalité, donc on va tous payer les mêmes impôts. Non, on paye des impôts beaucoup quand on gagne beaucoup d'argent. Et on reçoit plus d'allocations familiales quand on a plus d'enfants à charge. Et pourtant, là, il y a une inégalité ou une iniquité du partage des droits et des devoirs, mais parce que qui sont liés à des situations qui ne sont pas les mêmes. Oui. On ne peut pas mettre tout le monde pareil. Oui. Allez, que le gars il gagne 1 million d'euros par mois ou qu'il soit au chômage et qu'il gagne 0 euro, on va leur donner les mêmes droits au niveau RSA et au niveau allocation familiale. Non, c'est pas possible.
Parce que j'entends penser par là, oui, l'islam a lésé la femme, pourquoi le garçon de par la fille ou pas?
Madame, répondez-leur tout simplement, parce que l'islam, dans le Coran, il faut lire aussi d'autres passages dans lesquels Dieu incombe al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu asma'i wa bima anfaqu min amwalihim, et sur ce qu'ils auront accordé comme nourriture et biens et paiement des charges à leur partenaire, à leur conjoint. C'est le père qui assume l'assistance de sa famille, de sa femme et de son enfant qu'il a engendré. C'est lui qui paye tout. Voilà ce que dit l'islam. Donc à ce moment-là, on révise le Coran là, comme ça on va réviser l'autre. Mais on ne peut pas dire d'un côté les femmes elles sont lésées et de l'autre côté on est content que ce soit les hommes qui payent tout. Attendez quand même, il ne faut pas abuser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La société, elle est basée sur la justice et non pas sur l'égalité. C'est-à-dire, tout doit être égal. L'égalité, ça ne veut pas forcément dire justice. D'accord? Il faut distinguer l'égalité de la justice. Il faut être juste. Moi, je donne à mon fils qui est dans la pauvreté plus qu'à mon fils qui est riche. Parce que celui-là, il est dans le besoin et l'autre n'est pas dans le besoin. Ce n'est pas de l'inégalité. Ça s'appelle de la justice. Parce que hada muhtaj, hada mish muhtaj, علاش نعطي هذاك? Ah, mais l'a'tit l'hada, c'est t'a'tit l'hada, علاش? Non. Je donne pas à lui qui est riche, je donne à l'autre qui est pauvre. Parce qu'il est en galère. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez?
Bon, c'est un vrai débat, Salma. Hein, on fera une émission sur l'héritage. Imam Abdelali, on arrive à la fin de cette émission. On parlait de Omra tout à l'heure. Vous organisez une Omra très bientôt.
Oui, le 20, Inch'Allah, je pars le 20. Donc, il nous reste deux places, pas plus. Deux places pour partir le 20 décembre. Et il me reste beaucoup de places pour partir au mois de février. Bon, enfin, je dis beaucoup de places, c'est quelques places.
On a le temps encore.
C'est pas énorme, mais c'est pas énorme les places. Attention, Philippe, j'ai pas énormément de places pour le mois de février. Donc, même pour le mois de février, vous pouvez vous inscrire. Pour le mois de février, c'est le départ le 20 février au 4 mars. Et là, le 21 décembre, les deux places qui me restent là, c'est du 20 décembre au 1er janvier. Donc ceux qui veulent partir, ben, vous m'appelez au 06 29 25 35 00. Je vais le répéter quand même une dernière fois. Je répète que pendant tout le voyage, vous êtes accompagné, encadré au niveau religieux et tout ça. Donc c'est un super voyage. Vous allez faire non pas une omra, mais deux et voire même trois omras avec moi. Donc c'est au 06 29 25 35 00. Aussi les omra par délégation, ceux qui veulent faire une omra pour un défunt, ils veulent faire une sadaqa pour quelqu'un qui est mort, vous pouvez aussi vous acquitter, donner une sadaqa, ce qu'on appelle une omra badel.
Bien, et dans un instant, vos petites annonces week-end sur Beurre FM au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.